La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Hélène Richard est journaliste au Monde diplomatique, spécialiste de la Russie. Les articles qu'elle publie parlent essentiellement de ce pays et de fait de la guerre en Ukraine. Elle a été accueillie au lycée Marcel Gimond en même temps que la classe média du collège La Ségalière à l'Argentière. Collégiens et lycéens se sont associés à cette occasion pour l'interviewer.
La grande interview.
Une émission de grande classe.
Bonjour et bienvenue dans La grande interview, une émission réalisée par la classe 4e média du collège La Ségalière à l'Argentière et les élèves de première du lycée Marcel Gimond à Aubenas. Nous sommes avec Hélène Richard, journaliste au Monde diplomatique. Nous allons aborder plusieurs thèmes avec vous. Je passe dès à présent la parole à Louise.
Comment fonctionne un journal et quels sont les différents services ?
Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre lycée. Dans notre journal, on a déjà une partie administrative, donc on est une entreprise, donc on a besoin de secrétaires, d'un directeur commercial, d'une responsable des relations sociales, donc ressources humaines, comme dans n'importe quelle organisation économique. Et puis après, pour tout ce qui est la production du journal lui-même, on a une rédaction des journalistes, on est une dizaine au Monde diplomatique, qui soit écrivent eux-mêmes, soit commandent des articles à d'autres journalistes, et puis travaillent en binôme ou en collaboration, pour produire le texte sur document Word, on va dire. Et après, la production d'un journal, c'est comment on passe de ce contenu intellectuel à un objet matériel concret qu'on peut tenir dans la main ou qu'on peut regarder sur un écran de télé. Là, il y a beaucoup de métiers qui interviennent pour transformer les idées en objets matériels. Et donc, on a tout ce qui relève de la mise en forme du texte, de la correction. Donc, on a des correcteurs qui relisent les articles, bon, bien sûr, vérifient l'orthographe, etc., mais aussi l'orthographe des noms propres, vérifient des dates, vérifient des noms de lieux, vérifient... Il y a tout un travail très minutieux, et au Monde diplomatique, on a encore la chance d'avoir deux correcteurs, donc il y a une double relecture des textes. Ils sont un peu chapeautés par la chef d'édition, qui, elle, met en forme aussi les textes, la syntaxe, pour que ce soit vraiment fluide. Et après, il y a tout ce qui relève de l'iconographie et de la maquette. Le document Word, il est importé dans un logiciel pour être mis en page sur l'équivalent d'une double page d'un journal, avec comment on place le texte dans la page. Des iconographes vont... Nous, on illustre beaucoup nos articles avec des œuvres d'art. Donc on a des iconographes qui vont chercher dans des bases de données des œuvres d'art ou du travail photographique, mais pas trop, enfin un peu de reportage photographique, mais aussi des fois des choses beaucoup plus artistiques, etc. Donc qui ont un vrai regard sur l'art et qui vont essayer d'illustrer l'article un petit peu en décalage des fois. Et puis ensuite, on a aussi un métier qui s'appelle la photogravure. Alors là aussi, c'est en voie de disparition, mais on en a encore au Monde diplomatique, qui vont traiter les images de manière à ce que l'image, elle puisse... Parce que quand on a une image qu'on voit sur un écran d'ordinateur, quand on l'imprime, ça peut être complètement différent. Donc du coup, c'est le photograveur, il va connaître un petit peu la manière de coloriser, de nuancer les images, et pour que l'image imprimée, elle soit vraiment belle. Et ensuite, alors après, ça passe à l'impression. La impression, c'est des énormes rotatives, c'est très impressionnant à voir. C'est vraiment de l'industrie, quoi. Et là, le journal, il est imprimé et on essaye d'envoyer autant qu'on peut quelqu'un à l'imprimerie pour vérifier la qualité de l'impression, et que ce soit, que ça finisse, que ce soit un vrai objet. Donc un journal, c'est pas que produit par des journalistes, il y a énormément de métiers qui rendent possible la production de l'objet journal, quoi.
Combien de personnes faut-il pour sortir un journal ?
Nous, au monde diplomatique, c'est un peu particulier, on n'a que 30 journalistes, enfin 30, pardon, 30 personnels au monde diplomatique. Mais si tu prends tous les métiers du début de la chaîne à la fin, donc déjà, il faudrait compter tous les pigistes qui aussi travaillent pour nous, ou les contributeurs extérieurs, donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde, ça fait plusieurs centaines de personnes par an, plus tous les métiers qui vont jusqu'à la distribution du journal, parce que le journal, avant qu'il arrive dans les mains du lecteur, il a besoin d'être distribué dans des points de vente, avec des gens qui acheminent les journaux jusqu'au point de vente, qui vont le distribuer, le vendre, tous les gens de l'imprimerie. Donc ça fait du monde, quoi.
D'où viennent les idées de sujets ?
Dans notre rédaction, on est un peu spécialisé par zone géographique. Donc par exemple, moi, je m'occupe de tout ce qui était l'ex-Union soviétique, donc la Russie aujourd'hui, mais aussi un certain nombre de pays d'Asie centrale, l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes. Et donc là, je suis assez autonome. C'est moi qui décide un petit peu de quel sujet ça me semble important de traiter, etc. Puis après, ben, je le partage avec en conférence de rédaction. Donc chaque semaine, on a une conférence de rédaction où chacun expose les sujets qu'il pense importants à traiter. Et puis parfois, dans le cadre de la discussion, ben, quand il y a une actualité importante, on en discute et on se dit, ben voilà, ensemble, on dirait, bah, tiens, ça serait plutôt sous tel angle qu'il faudrait traiter, etc. Donc, c'est soit collectif, soit individuel.
Et comment vous choisissez votre angle ?
Déjà, pour choisir l'angle, en fait, comme nous, on paraît tous les mois, on est toujours un peu décalé avec l'actualité un peu chaude. Donc déjà, on lit, on regarde ce qui se dit à la télé, ce qui est écrit dans les autres journaux, puis on se dit, bah oui, mais là, il manque quand même un angle qui n'a pas été traité, et nous, on veut essayer d'apporter toujours quelque chose un peu nouveau. Donc déjà, ça passe par une veille de la presse et de l'actualité telle qu'elle est traitée ailleurs, qui nous permet quand même de nous déterminer. Et nous, on va essayer d'apporter peut-être du recul historique, des événements historiques du passé qui ne sont pas forcément rappelés dans l'actualité quotidienne. Et donc, on va se dire, ben voilà, ça, pour comprendre l'événement, il faudrait rappeler au lecteur qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça avant, ou alors un point de vue politique ou critique qui est moins exposé dans les autres médias. Voilà, on va essayer. En fait, on essaye quand même d'apporter quelque chose de nouveau, sachant qu'on ne peut pas apporter de l'information chaude, alors on essaie d'apporter de l'analyse.
Merci, nous allons passer à un tout autre thème, le défi du numérique pour les journaux papier. Je passe la parole à Oscar.
Est-ce que la presse est en difficulté à cause de l'information en ligne ?
Ça a été le cas il y a quelques années, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui ont abordé la question du numérique à travers un peu des formules d'accès gratuit à l'information en ouvrant leur site internet. Alors au monde diplomatique, on avait fait un choix inverse, c'est-à-dire on est quand même resté très centré sur que l'information, pour être indépendante et de qualité, elle doit être achetée. On préfère avoir des ressources par nos lecteurs que par la publicité, parce que c'est un gage d'indépendance. Et donc, nous, on n'avait pas pris ce tournant de créer un site internet avec plein de contenus gratuits, comme une sorte de vitrine, l'idée étant qu'on donne accès gratuitement à une partie de l'information et les lecteurs, ben, ils s'abonneraient en ayant envie, après à la lecture de quelques articles gratuits, etc. Et donc, il y a un certain nombre de journaux qui sont rentrés en difficulté parce que ils voyaient bien que les gens se contentaient du contenu gratuit, ils n'allaient pas forcément s'abonner puisqu'ils avaient un certain nombre de contenus gratuits. Donc petit à petit, les choix des rédactions, ça a été quand même de fermer leurs archives numériques gratuitement et d'en tirer des revenus. Maintenant, il y a vraiment une offre payante numérique qui est viable, quoi, économiquement. Cela dit, on a d'autres difficultés, c'est que, notamment, on s'est aperçu que pour diffuser notre information, on s'est mis à passer beaucoup par les réseaux sociaux, donc dans un premier temps Facebook, ou après Instagram, sauf qu'on est beaucoup dépendant des algorithmes de ces plateformes, et on s'est aperçu qu'ils ont ils ont mis de moins en moins en avant les contenus des journaux dans leur algorithme. Et donc, il y a eu aussi une chute du lectorat parce qu'on est bloqué par ces plateformes qui vont faire remonter des contenus qui sont plus intéressants pour eux. Parce que récemment, ils ont été obligés de rentrer dans des négociations pour rémunérer les journaux classiques parce que on leur donnait aussi un trafic de lecteurs. Et donc, ils ont dû redonner de l'argent aux journaux. Alors, ils ont dit, si on doit vous redonner de l'argent, c'est bien simple, on vous met au fond de l'algorithme. Et nous, c'est pas grave, on envoie des vidéos de chatons. Sauf que, vous voyez, c'est un problème. Là aussi, on retombe sur le problème de la démocratie, c'est-à-dire on se retrouve aujourd'hui quand même très dépendant des politiques de grands groupes qui sont des plateformes qui ont un pouvoir sur la capacité de diffuser l'information. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les journaux papier, il y a pas, enfin, je ne sais pas si vous achetez beaucoup de journaux papier ou si, mais c'est en chute libre. Il y a peu de gens qui désormais achètent des journaux papier. Donc voilà, c'est.
Vous dites que la presse papier est en chute libre, mais à quel point? Il y a beaucoup moins d'impression qu'il y a 10, 20, 30 ans aujourd'hui.
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Sur une dizaine d'années, en moyenne, je pense qu'on est sur du moins 50%.
Ah oui.
Parce que y a eu les formats numériques, et puis il y a une crise des points de distribution. Avant, on avait, notamment à Paris, il y avait, et dans les grandes villes, plein de kiosques, et ces kiosques qui ferment. La personne qui se balade dans la rue, et qui, elle a moins l'occasion d'avoir envie même d'acheter un journal. Donc ça a contribué aussi à faire baisser le nombre de ventes de journaux papier, plus les pratiques des gens qui sont plutôt désormais avec les smartphones de lire en ligne. Et ça, il faut s'adapter aussi. Donc là, on a lancé une nouvelle application plus confortable pour qu'on puisse lire les journaux, les articles du monde diplomatique en ligne sur une application payante, mais qui prennent en compte la transformation des pratiques de lecture.
Le contenu du journal en ligne est-il le même que celui du journal papier ?
Oui, pratiquement équivalent. On a quelques articles inédits dans la version papier qu'on met en ligne, mais notre politique, c'est de ne pas avoir deux rédactions séparées, une rédaction pour le papier, une rédaction pour Internet. C'est le cas de certains journaux. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un niveau de qualité égal pour le papier et le numérique. Ce qu'on a beaucoup développé, c'est en ligne, on met en ligne nos archives, tous les numéros qui sont parus dans le passé. Et donc, on essaye d'améliorer le moteur de recherche. Par exemple, si tu cherches tu travailles peut-être quand tu seras plus grand au lycée ou à l'université sur un sujet particulier, comme on a des articles un peu de fond d'analyse, tu tapes un mot-clé dans notre moteur de recherche, et puis tu as sur, je ne sais pas, par exemple, le conflit israélo-palestinien, et tu as tous les articles qu'on a publiés sur le sujet avec. C'est des articles parfois que tu peux lire même en dehors de l'actualité parce qu'ils reviennent sur l'histoire, sur des choses un peu en profondeur. Et ça a beaucoup été apprécié par nos lecteurs.
Mais donc, votre public, il est plus large en ligne ou avec le papier ?
On a beaucoup de gens qui s'abonnent à la version papier et à la version numérique, mais pour avoir accès aux archives. Donc, ils combinent, ils reçoivent le journal, parce qu'on a des articles des fois un peu longs. Donc, ils préfèrent lire sur papier, mais s'ils veulent chercher de l'information, on a des offres combinées, à la fois papier et en ligne. C'est la formule la plus populaire, quand même. Et en kiosque, on vend à peu près autour, ça oscille entre 35 000 à 50 000 exemplaires par mois de journaux papier. Et puis, si on prend toute la diffusion papier, à la fois ceux qui le reçoivent chez eux, on est plutôt autour de 100 000.
Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième partie de notre interview, profitons d'une pause musicale. À tout à l'heure. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre café en moins. Il fait froid et je me sens si seul.
J'ai tout laissé derrière moi. Je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit le monde est ton pays. Elle m'avait dit tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit ne te retourne pas. Elle m'avait dit je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit ne m'est pas. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Descendant dans la villa. Pour mon pack à calculer moins. Mon café dix à faire moins. Tout seul. Allons moins qu'à penser à. Êtes-vous aussi ou qu'à vivre ça? Êtes-vous aussi ou qu'à sentir toutes ces rêves? Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Oh, and I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul, que le bruit de mes pas. I'm walking alone, yes I'm walking alone. Je marche seul, que le bruit de mes pas. I'm walking alone, yes I'm walking alone.
Retour avec notre invitée, la journaliste Hélène Richard. Parlons à présent de la Russie et de l'Ukraine. Je passe la parole à Oscar.
Le conflit va-t-il durer encore longtemps ?
À mon avis, oui, les positions à la fois russes et ukrainiennes sont pour l'instant si irréconciliables qu'il n'y a aucun indice qui permet d'imaginer qu'il y ait une solution à court terme à ce conflit. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'il baisse en intensité. On a vu ces derniers mois un conflit qui en partie s'enlise. On voit que la ligne de front n'a pas beaucoup bougé depuis l'été dernier. Donc on a deux camps qui consolident leur position défensive. Ça semble être un conflit qui se fige en tout cas, mais qui reste très meurtrier. C'est un conflit qui a recours énormément à l'artillerie, aussi aux drones, qui font beaucoup de victimes. Et donc on est dans une configuration qui n'a pas été vue depuis très longtemps, qui a une ligne de front de plus de 1000 km, avec énormément de pertes humaines. Il y a de plus en plus de comparaisons avec des situations qu'on a connues pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Et puis la diplomatie, pour l'instant, n'a pas fait son... On est encore dans une phase très limitée dans la diplomatie, dans les discussions. Pour l'instant, aussi bien l'Ukraine et ses alliés que la Russie veulent obtenir des gains militaires, l'ascendant militaire, pour pouvoir imposer à l'adversaire ses conditions. Donc il y a très peu de discussions, très peu de négociations qui permettent de faire baisser, de trouver une solution à ce conflit.
Est-ce que Poutine pourrait être condamné par la Cour internationale pénale ?
Oui, la Cour pénale internationale a été saisie. Il est fort possible que le jugement aboutisse. Après, la question c'est de savoir quel impact ça aura sur le régime politique de Poutine et quelles conséquences ça a. Donc normalement, on l'a vu par exemple récemment, il aurait l'Afrique du Sud, qui est un pays qui a adhéré à la Cour pénale internationale, a refusé d'intercepter Poutine en dépit de ce mandat d'arrêt international qui courait sur lui. Donc il y a un certain nombre de pays qui ne souhaitent pas appliquer cette sanction.
Louise a une autre question pour vous.
Oui, j'ai surtout une question concernant l'information. Comment faites-vous justement pour vous informer sur la situation concernant le conflit ?
Je lis beaucoup ce qu'écrivent aussi mes collègues, des reporters sur place. Comme je parle russe, je lis aussi la presse russophone. Ça me donne aussi un certain nombre d'informations sur l'autre partie, comment ils voient les choses, quelles sont leur manière de traiter l'information. Donc, je lis les journaux russes, aussi les journaux ukrainiens. Il y avait beaucoup de journaux ukrainiens qui avaient une version russe, parce que c'était un pays bilingue. Sauf qu'avec le conflit, la question de l'usage de la langue russe est devenue de plus en plus problématique. Il y a une politique des médias ukrainiens de n'avoir plus qu'une version ukrainienne. Donc c'est vrai que pour moi, c'est plus difficile d'accéder à l'information en ukrainien, mais ils développent des versions en anglais. Mais encore récemment, beaucoup de journaux ukrainiens avaient la double langue, en ukrainien et en russe, ce qui correspondait à la diversité linguistique qui existait dans ce pays.
Vous parlez justement des différents journaux, donc dans plusieurs langues. J'imagine que l'objectivité doit varier d'un pays à l'autre. Comment vous faites pour justement garder de la distance avec ce qui est dit ou...
Comment dire, il faut multiplier un peu les sources, les lectures. Après, l'important, c'est pour analyser une situation, c'est de savoir comment chaque acteur réfléchit. Je sais très bien que dans un contexte de guerre, à la fois la partie ukrainienne et la partie russe sont directement intéressées à avoir une information qui va permettre de présenter les choses de manière à obtenir le soutien de l'opinion. Pour les Ukrainiens, évidemment, le soutien de l'opinion publique occidentale, puisqu'ils sont quand même dépendants de l'aide occidentale, aussi bien militaire qu'économique. Et du côté russe, évidemment, ils vont mettre en évidence davantage les bombardements ukrainiens que les leurs. Chaque camp va mettre en avant sa propre version. Mais ça, c'est pour le traitement de la guerre au jour le jour. C'est pas forcément ce qui va être, pour moi, le plus important. Je lis aussi beaucoup les communiqués du ministère des Affaires étrangères russe, la manière dont il définit ses objectifs politiques, ses buts de guerre, pour voir un peu jusqu'où vont-ils aller. Donc il faut vraiment comprendre comment fonctionne et le raisonnement des deux parties pour pouvoir avoir une bonne lecture de la situation.
Et est-ce qu'une révolte pourrait se produire en Russie ou en Ukraine ? Peut-être les Russes, ils pourraient se révolter contre leur président parce qu'ils ne sont pas d'accord ?
C'est quelque chose qui est beaucoup attendu du côté occidental. Une solution, ça serait que les Russes se révoltent et renversent Poutine, et puis il n'y aurait plus de guerre, et voilà. La réalité, c'est que c'est peu probable, on ne sait jamais, hein. On a des fois été surpris par des révoltes, on en a connu dans les années 2010 et dans le monde arabe, mais... À la fois l'intensité de la répression en Russie, qui a monté encore d'un cran après le conflit, et une popularité réelle du président Poutine chez les Russes, en tout cas une popularité, peut-être pas comme dans les premières années, mais une certaine confiance, on va dire. On voit dans certains sondages d'opinion qu'ils soient plutôt financés par le gouvernement comme des instituts de sondage plus indépendants. Ils ont des résultats assez convergents une grande majorité de Russes se disent « Bon, cette guerre, maintenant qu'elle a commencé, elle a sans doute commencé pour des bonnes raisons. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais on fait confiance à notre président. S'il l'a dit, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Et maintenant, qu'on a commencé, il faut pas la perdre. » Je pense qu'attendre une révolte des Russes, c'est un petit peu optimiste. On en est encore loin, surtout que l'économie russe, elle a plutôt surmonté et bien résisté aux sanctions économiques qui ont été adoptées par les Européens, par les Américains, qui étaient pourtant très sévères, mais qui n'ont pas eu beaucoup d'effet.
Passons maintenant au thème de l'information et de la désinformation.
Est-ce que les journalistes peuvent faire des erreurs sur les informations qu'ils transmettent ?
Ah oui, bien sûr, on est faillible comme tout un chacun. Mais je pense que les erreurs se multiplient, notamment avec vraiment la montée en puissance de l'information en continu. Je dirais que c'est moins des erreurs de journalistes que provoquées par un certain système médiatique qui fait qu'on demande de l'information rapide et des réactions rapides. Et donc, il y a une certaine pression qui fait que on vérifie peu l'information et on relaye de l'information assez sans forcément prendre le temps de la vérifier. Par exemple, si on prend le cas du conflit en russo-ukrainien, sur la date je me rappelle plus trop, mais il y a eu un moment un missile qui est tombé en territoire polonais, et donc c'était un événement très tendu et grave parce que en fait la Pologne, elle appartient à une organisation qu'on appelle l'OTAN. Une alliance militaire qui fait que quand un pays qui appartient à cette organisation est attaqué, normalement tous les pays de cette organisation doivent le défendre et s'allier pour repousser une attaque. La première information qui n'avait pas été vérifiée, c'était de dire que c'était un missile russe. Donc ça pouvait déclencher une guerre mondiale, puisque un pays de l'OTAN est attaqué, donc normalement la France, l'Allemagne, les États-Unis sont censés venir à son secours et s'engager dans la guerre. Et en fait, il y a eu une certaine pression médiatique sur les responsables politiques pour dire « Alors, un missile russe est tombé, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous répliquez pas ?» etc. Donc, une mise sous pression. Et ça, c'est beaucoup les journalistes de plateau, télé, qui ont fait monter quand même la pression sans vérifier qu'en fait, c'était pas un missile russe, c'était un missile ukrainien de la défense antiaérienne ukrainienne qui a essayé d'intercepter un missile russe et qui, en fait, est retombé en territoire polonais.
C'est pour ça donc que l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN pour être protégée ? C'est pour ça ?
L'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN pour être protégée, oui. C'est un petit peu compliqué dans le sens où ça fait depuis un certain nombre d'années qu'elle fait sa demande. Depuis 2008, c'est une vieille histoire, cette histoire de rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Dans un premier temps, c'était surtout les Européens, la France et l'Allemagne, qui ont été contre cette adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, de peur de déclencher une provocation avec la Russie. Et donc, elle est restée à la porte de l'OTAN. Mais les États-Unis avaient un autre avis. Eux, ils souhaitaient qu'elle rentre dans l'OTAN. Et donc, cette guerre, en partie, il y a beaucoup de raisons différentes, mais en partie, elle a été déclenchée par la Russie comme une guerre préventive. C'est-à-dire de dire, comme il y a ce projet américain de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh ben nous, on ne l'accepte pas, donc on va faire la guerre avant qu'elle... on va empêcher ce projet-là en envahissant l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, elle s'est trouvée dans une situation d'entre-deux qui a été un peu la pire des situations. C'est-à-dire, à la fois, il y a la perspective de rentrer dans cette alliance... Et en même temps, il n'y a pas les garanties qui vont avec. Donc c'est comme si on agitait un peu un chiffon rouge. Et puis, ça a provoqué cette guerre. Bien sûr, du coup, cette guerre est inacceptable d'un point de vue du droit international, puisque l'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine sans qu'elle présente un danger direct pour sa sécurité. Mais du point de vue des dirigeants russes, ils ont conçu cette guerre comme une guerre préventive. Ce qui n'est pas acceptable, évidemment, mais c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, c'est un fait.
Vous nous parlez souvent de fausses informations qui pourraient circuler. Mm-hmm. Comment faites-vous pour identifier les fake news, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple ?
Je dirais que je suis peu concernée par cette difficulté-là, puisque je vais chercher l'information plutôt qu'elle me parvient. Parce que la question des fake news, c'est beaucoup parler, c'est de toucher un public qui pas forcément va chercher l'information, mais à qui qu'on va toucher avec des vidéos virales ou avec des... et donc, du coup, l'information arrive sans forcément avoir été recherchée, par exemple. Et donc voilà, donc je dirais que c'est plus le background, les connaissances générales que j'ai qui vont me permettre de discerner ce qui me paraît crédible de pas crédible. Et puis le ton qui est adopté, polémique, ça peut donner des indications sur l'intention, enfin sur la qualité ou pas de l'information.
Et vous pensez que le fait que l'information devienne instantanée, ça attise les fake news ? Et est-ce que le fait d'être un mensuel, ça permet forcément donner une information plus qualitative puisqu'elle est filtrée et réfléchie pendant un mois.
Voilà, oui, c'est tout à fait... T'as tout à fait raison. Il y a beaucoup de questions du rythme de production de l'information, multiplie les risques d'erreur. Et ce qui est recherché, c'est plus le clivage, la volonté de faire réagir, puisque si l'information est un bien de consommation... Il faut produire des émotions chez le lecteur, il faut qu'il ait envie de... Et donc, si on a cet objectif-là, forcément, on va aller chercher quelque chose qui est clivant, qui est biaisé, qui est plus dans la prise de position, pour pouvoir capter l'attention du lecteur, ce qui n'est pas toujours compatible avec la vérification de l'information, l'analyse... où bah, voilà, c'est moins vendeur de dire bah, les choses sont plus compliquées, il faudrait quand même prendre le temps de réfléchir. Bon, ça demande de l'attention du lecteur, ça demande du temps, c'est moins directement vendeur à court terme. C'est pour ça que nous, on a justement le slogan de notre journal, c'est « on s'arrête, on réfléchit ». C'est ça notre philosophie.
Et comment on trouve l'équilibre entre être vendeur et ne pas trop jouer sur les émotions? Et à partir de quel moment on peut considérer que c'est immoral d'utiliser l'émotion forte du lecteur pour l'attirer vers un article?
Ça, c'est des discussions qui se jouent dans chacune des rédactions. Nous, on a encore la chance d'avoir une situation économique encore relativement confortable. On est bénéficiaire. Donc, des fois, on fait des choix qui sont pas directement commerciaux. On prend des risques, y compris sur le plan éditorial. Par exemple, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a un traitement qui est assez différent du reste de la presse. Et donc, y a des lecteurs qui nous écrivent, qui ne sont pas contents. Mais on se dit que sur ce sujet-là, nous, notre priorité, c'est de défendre le point de vue qu'on estime juste d'apporter une information différente. Voilà, puis on continue à le faire, cette liberté. On a des conditions économiques qui nous le permettent. Et voilà. Et après, c'est une question qui se pose, par exemple, dans notre journal, au moment des titres. Donc, on a l'article en lui-même, et puis après, on va devoir choisir un titre, notamment les titres en une. Donc, nous, ça va être un peu la discussion sur les titres où cette question-là est posée. On dit, on survend un peu l'article en le titrant comme ça, peut-être que c'est un peu... Ou alors, là, c'est un titre un peu trop plat, ça va pas donner envie à lire. Donc, on va discuter de ça. Voilà, comment ça se passe dans notre rédaction.
Cette émission est terminée. Merci à Hélène Richard d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir écoutés. À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.